excellente question pour vous. Quand est-ce que la grande tribulation va avoir lieu sur cette terre? La parole de Dieu va nous donner une réponse vraiment rassurante pour tous les croyants, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Carou. Mes amis, j'aimerais vous encourager à vous joindre à moi pour écouter ce que le Seigneur va nous enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly aujourd'hui, au cours de l'émission. Pour les croyants, ce sera un message réellement encourageant. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus d'une manière intime auront l'opportunité de le rencontrer et de le recevoir comme sauveur. Alors voici nos questions. Est-ce que l'Apocalypse est simplement un ramassis de visions que personne ne peut comprendre? Quand est-ce que la grande tribulation va avoir lieu? Pourquoi est-ce que le livre de l'Apocalypse est placé à la toute fin de la Bible? Comment se fait-il qu'on n'entend plus parler de l'Église au 7e chapitre de l'Apocalypse? Y a-t-il des gens qui recevront Jésus-Christ personnellement pendant la grande tribulation? Est-ce qu'une Église active dans l'évangélisation peut s'attendre à être persécutée? Se peut-il que le Seigneur utilise parfois le vent pour juger la terre? Quels sont les deux effets opposés causés par la souffrance chez l'être humain? Est-ce qu'on peut savoir exactement quand le Seigneur reviendra? Restez à l'écoute, le pasteur Régent Joly a une réponse vraiment claire et enrichissante pour chacune de nos questions, et il va nous enseigner la parole de Dieu dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Seigneur, merci pour l'encouragement que tu donnes à tes enfants par ta parole. Merci pour ce livre de l'Apocalypse qui nous amène à comprendre là où nous sommes rendus aujourd'hui, combien il est urgent de proclamer ton beau salut à toute la terre. Touche nos cœurs par ta parole aujourd'hui et amène-nous à cette perfection que tu veux qu'on ait un jour, à la ressemblance de ton Fils Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, un livre facile à comprendre sous certaines conditions. L'Apocalypse est parfois considéré comme un livre difficile à comprendre. Certains pensent qu'il contient seulement un ramassis de visions diverses qui n'ont rien à voir avec notre monde et que personne ne peut comprendre. Pour ma part, je suis convaincu que ce livre est logiquement structuré. De plus, il est subdivisé d'une manière très simple. Et qui ne peut échapper à personne? Toutefois, si nous demeurons bloqués sur un passage et si nous essayons de trouver des significations symboliques afin de le faire cadrer dans un système préconçu, nous rencontrerons alors beaucoup de difficultés. Au lieu de cela, ne devrions-nous pas laisser l'auteur nous montrer où nous sommes à mesure que nous avançons dans notre lecture? Présentement, au début du chapitre 7, le futur se révèle devant nous. À vrai dire, cet avenir n'est pas vraiment très rose. Nous nous trouvons dans une section appelée la Grande Tribulation. Ce temps arrivera après le départ de l'Église. Une fois sa mission accomplie, l'assemblée des croyants à travers le monde sera enlevée de la terre en réponse à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'on peut facilement arriver à cette conclusion, non seulement en lisant ce livre, mais l'ensemble des livres contenus dans la Bible. Rappelons-nous un des principes fondamentaux de l'interprétation des prophéties dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. En d'autres mots, nous ne pouvons pas simplement tirer hors de son contexte un verset, un chapitre ou même le livre de l'Apocalypse au complet, tout en espérant interpréter correctement l'ensemble des prophéties. Si je me permets de vous parler aujourd'hui avec tant d'assurance, c'est que j'ai pris soin d'étudier avec vous tous les livres de la Bible avant d'arriver au dernier, qui est le livre de l'Apocalypse. Car une erreur trop souvent commise est de tenter de comprendre ce livre sans connaître ceux qui le précèdent. L'Apocalypse est placé à la toute fin de la Bible pour une raison bien précise. Dieu nous révèle ici les derniers détails concernant sa volonté et son plan de rédemption pour l'humanité. Quand nous apprenons l'arithmétique à l'école, nous commençons avec 1 plus 1 égale 2 et 2 plus 2 égale 4. On n'essaie pas de nous enseigner au départ tous les raffinements de la théorie de la relativité. Puisque l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, la seule qualification préalable pour bien comprendre ce livre est une connaissance de base des 65 premiers livres qu'il précède. Une fois ce travail fait, nous pouvons comprendre le sens de ce livre et son déroulement logique. La grande tribulation. L'Apocalypse n'est pas seulement le dernier livre et la conclusion de la Bible. Il en est également la récapitulation. On y trouve une quantité phénoménale de références directes et indirectes aux livres précédents. Aujourd'hui, l'apôtre Jean nous révèle certains détails de la grande tribulation. Une autre référence à cette sombre période se trouve dans un discours de Jésus se trouvant dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24 et 25. Matthieu élabore ici sur les enseignements de Jésus et il nous livre certaines informations supplémentaires. Rappelons-nous que l'évangéliste Matthieu a reçu son enseignement directement de la bouche du Maître. Lors des émissions précédentes, nous avons vu que Jésus était la seule personne digne d'ouvrir le livre aux sept sceaux. Jusqu'ici, les six premiers sceaux du livre ont été ouverts. Ils nous révélaient les quatre grandes tragédies à venir sur la terre et le début des jugements de Dieu. Le cinquième sceau nous montrait la présence des saints martyrs au ciel, morts à cause de leur témoignage fidèle. Le sixième sceau nous présentait les premiers indices du châtiment à venir, lorsque Dieu donnera libre cours à sa juste colère envers un monde impie et méprisant. Pendant ce temps, l'Église n'est jamais mentionnée par son nom. La raison est simple. L'apôtre Jean décrit alors des événements se déroulant sur la terre, et à ce moment-là, l'Église ne s'y trouve plus. L'Église est un des thèmes des chapitres 2 et 3. On nous présente cette Église typique. Elles sont associées aux différentes époques de l'histoire de l'Église à travers les siècles. Ces sept Églises ont vraiment existé au temps de l'apôtre Jean. Ce sont les églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Mais ici, au début du chapitre 7, on n'entend plus du tout parler de l'Église. Elle ne se trouve plus sur la terre car elle a été enlevée et élevée de la terre au chapitre 4 et 5. Elle se trouve dorénavant au ciel. Plus tard, nous reviendrons sur ce sujet et nous verrons pourquoi l'Église ne peut pas se trouver sur la terre pendant la grande tribulation. Car si l'Église devait passer, ne serait-ce que par une seule des phases de la grande tribulation, nous nous trouverions devant un problème théologique et moral. Le sujet principal à ce point du récit n'est donc plus l'Église. Jésus a reçu le livre aux sept sceaux et il a ouvert les six premiers dans les chapitres précédents. En réponse à l'ouverture des quatre premiers sceaux, les quatre cavaliers de l'Apocalypse ont fait leur apparition pour ensuite aller ravager la terre. Ainsi commençait la période de la grande tribulation qu'elle ait duré sept ans. Les sept sceaux nous présentent une vue d'ensemble de ce temps à venir. Le dernier des sept sceaux, quant à lui, nous décrira la dernière moitié de cette période de grande calamité. Les conversions pendant la grande tribulation. Pendant les trois premières années et demie, nous avons vu le quart de la population mondiale détruite par le jugement de Dieu. Ce temps sera très difficile pour ceux qui devront y vivre. Il le sera particulièrement pour ceux qui, devant la sévérité du jugement de Dieu, le reconnaîtront dans sa puissance, l'accepteront et se tourneront vers lui en recevant personnellement Jésus-Christ. La question se pose. Les croyants auront-ils le courage de témoigner de la parole de Dieu à un moment où beaucoup d'hommes haïront Dieu comme jamais auparavant à cause des souffrances qui leur sont imposées? Qu'arrivera-t-il aux gens qui se tourneront vers le Seigneur et qui seront sauvés pendant la grande tribulation? Une partie de la réponse se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité est la tendance à la rébellion qui pousse les hommes à désobéir à Dieu. Pendant que l'Église est encore sur la terre, le Saint-Esprit impose une limite à ce penchant humain vers le mal. Mais pendant le temps de la grande tribulation, le Saint-Esprit n'exercera plus ce ministère de restriction, et le mal se répandra sur la terre comme une traînée de poudre. À l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit montera avec elle pour la présenter à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit reviendra ensuite sur la terre, car sans l'œuvre du Saint-Esprit, personne ne pourrait se tourner vers Dieu. Entre la Pentecôte et l'enlèvement, le Saint-Esprit appelle l'assemblée des croyants, appelée l'Église, à former le corps de Christ. À l'enlèvement, cette tâche sera terminée, puisqu'il n'y aura plus d'Église sur terre. Et, en même temps, le Saint-Esprit ne retiendra plus l'iniquité sur la terre comme il l'a fait jusqu'ici. Il devait absolument retenir cette iniquité afin que l'Évangile de Jésus-Christ pénètre dans un monde dominé et aveuglé par Satan. Comment la parole de Dieu aurait-elle pu se répandre si l'Esprit de Dieu n'avait pas limité l'influence du mal dans le monde? Et même malgré cet appui, j'ai pu constater une chose pendant toutes ces années de ministère. Du moment qu'une église locale se consacre à l'évangélisation, elle rencontre une forte opposition. Tant qu'une église reste fermée sur elle-même, Satan la laisse relativement tranquille. Mais si elle commence à prêcher la parole de Dieu au milieu du monde, elle sera persécutée. Dans les chapitres 2 et 3, nous avons vu que les deux églises les plus persécutées, Smyrne et Philadelphie, étaient les plus actives au niveau de l'évangélisation, car Satan cherchera à nuire par tous les moyens au témoignage des églises qui prennent au sérieux leur rôle d'évangéliste. Et si l'Esprit de Dieu n'était pas là pour le retenir, il n'y aurait plus de croyants sur la terre. Or, un jour, le Saint-Esprit ne retiendra plus Satan. Comment les gens pourront-ils être sauvés pendant la grande tribulation? En ce temps-là, Satan pourra agir à sa guise. Il aura une complète liberté de mouvement. Nous verrons plus tard pourquoi Dieu lui accorde cette liberté. Car ce temps sera un temps où Dieu jugera le monde parce qu'il a rejeté son Fils Jésus-Christ. Comment les gens pourront-ils être sauvés en de telles circonstances? Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église dans son ensemble, nous pouvons constater que davantage de personnes se convertissent à Jésus-Christ lorsque l'Église est persécutée. Et pour cette raison, je crois que plus de gens se convertiront pendant la grande tribulation qu'ils le font aujourd'hui. Plus de gens se tourneront vers le Seigneur Jésus-Christ pendant la grande tribulation que pendant toute autre période depuis que l'Église existe. Le chapitre 7 nous expliquera comment les événements suivront leur cours. Le Saint-Esprit revient dans le monde après l'enlèvement de l'Église, tout comme il était déjà dans le monde avant la Pentecôte. Le ministère du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on peut voir le Saint-Esprit accomplir son œuvre dans le cœur et la vie de nombreux hommes et femmes. De grandes multitudes étaient conduites à Dieu par son ministère. Par contre, en ces temps-là, il ne retenait pas l'iniquité et il ne baptisait pas les croyants à l'intérieur du corps de l'Église. Il accomplit actuellement ce ministère envers l'Église de Jésus-Christ, mais un jour, il s'arrêtera. Toutefois, il continuera de conduire des hommes et des femmes au Seigneur Jésus. Au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 2, nous pouvons lire que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et encore aujourd'hui, le Saint-Esprit parcourt la terre, comme il l'a fait depuis le commencement. Il continuera de le faire après l'enlèvement de l'Église. Sa tâche sera particulière pendant la grande tribulation, et l'apôtre Jean s'apprête à nous en donner les détails. Rendu à ce point du récit, l'auteur nous propose un autre principe à suivre, si nous voulons bien comprendre le livre de l'Apocalypse. Ces dernières années, les théologiens se sont beaucoup attardés sur l'aspect structurel de la Bible. plusieurs livres de la Bible ou des parties de livres présentent une structure trop bien définie pour être le simple effet du hasard. Nous avons déjà souligné le fait que Jean aimait employer des séries de sept éléments. Par exemple, un livre avec sept sceaux ou sept trompettes ou sept coupes de colère. Mais voilà ce qu'il est important d'observer dans ces séries. Entre le sixième et le septième élément de chaque série, nous avons un interlude apparemment sans aucun rapport avec le déroulement des opérations. En réalité, cet interlude nous fournit une explication très importante et il répond à certaines questions. Et puisque nous sommes rendus entre le sixième et septième sceau, nous pouvons nous attendre à ce genre d'intermède explicatif. En plus de se présenter pendant la séquence des sceaux entre le sixième et le septième, cet interlude se présentera de nouveau dans la séquence des sept trompettes, des sept acteurs auxquels nous ferons connaissance et des sept coupes de colère. L'auteur suivra ce même modèle pendant cette section du livre. Nous pouvons donc nous y attendre et il sera alors plus facile de ne pas nous égarer sur de fausses pistes. Le souffle du jugement. Dans les trois premiers versets du chapitre 7, l'apôtre Jean nous explique pourquoi l'action s'interrompt entre l'ouverture des sixième et septième sceaux. Chers amis, lisons Apocalypse chapitre 7 verset 1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Après cela, c'est-à-dire après le redoutable jugement du chapitre précédent avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous a d'abord présenté une vue d'ensemble de la première moitié de la grande tribulation. Maintenant, il nous fournit quelques détails afin de parfaire notre compréhension des événements. L'apôtre Jean a utilisé le même procédé dans la vision du trône au chapitre 4. Il a commencé par nous décrire le trône et la personne assise dessus. Il a ensuite attiré notre attention sur un nombre grandissant d'adorateurs autour du trône. Les 24 vieillards, les quatre êtres vivants, les myriades d'anges et finalement toutes les créatures du ciel et de la terre. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Laissez-moi d'abord vous raconter une savoureuse anecdote rapportée par J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes. Un jour, où il assistait à une conférence, un homme s'est levé dans l'assemblée en disant « La Bible n'est pas un livre scientifique. Elle enseigne que la terre est plate car elle parle ici des quatre coins de la terre. » Le prédicateur a alors répondu « Je suis étonné que vous ne sachiez pas que la terre possède quatre côtés. Il s'agit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ce sont les quatre coins de la terre. Dans ce passage, un ange se tient debout au sud, un autre au nord, l'autre à l'est et le dernier à l'ouest. » Il retenait les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ces vents pourraient représenter le jugement de Dieu. Le Seigneur utilise parfois le vent pour juger la terre, car il contrôle aussi les éléments naturels. Dans le psaume 148, verset 8, nous pouvons lire « Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres. Les anges retiennent les vents du jugement pendant un moment. Rien ne bouge avant le signal du Seigneur. Quelle est son intention? Quel but poursuit-il? Il attend que les hommes se tournent vers lui. Je ne pense pas que Dieu maintiendrait cette planète en vie pendant bien longtemps si aucun homme ne se tournait vers lui. Car c'est pour glorifier son nom que Dieu a créé l'homme. Si tous les hommes persistaient à vivre comme si Dieu n'existait pas, ce dernier nous abandonnerait à notre triste sort. Ou encore, il mettrait fin à l'injustice sur terre en nous éliminant tous jusqu'au dernier. Dieu a créé l'univers par sa parole et il pourrait certainement y mettre fin de la même manière. Pendant la grande tribulation, de nombreuses personnes viendront à Dieu. Ces jugements accompliront donc leur œuvre. Pendant la grande tribulation, nous verrons la séparation entre les deux groupes s'accentuer de plus en plus. Certains se rapprocheront de Dieu et d'autres s'éloigneront encore plus de lui. Devant Dieu, certains cœurs s'adoucissent et d'autres s'endurcissent. C'est un peu comme l'effet du soleil sur certaines matières. Lorsque le soleil luit sur une pièce d'argile humide, elle s'assèche et durcit. Par contre, si le même soleil luit sur la cire, elle fondra. Le soleil exerce un effet diamétralement différent sur l'argile et la cire. Ainsi en est-il des jugements de Dieu. Lorsque Dieu permet des souffrances et des difficultés dans la vie des hommes, elles produisent aussi des effets différents. Certains se rapprocheront de Dieu dans les moments difficiles et d'autres s'en éloigneront. Dieu se sert parfois de la souffrance pour rapprocher de lui ceux et celles qui lui appartiennent. Il veut nous rapprocher de lui et parfois la souffrance est la seule option que nous lui laissons. Une compréhension limitée. Nous ne pouvons pas comprendre chaque menu détail de ce chapitre. Ou, tout au moins, je ne peux pas tous les comprendre et encore moins les expliquer. Certaines personnes semblent en savoir beaucoup plus que moi là-dessus. C'est comme s'ils détenaient une ligne directe avec le Seigneur. Ils annoncent avec beaucoup de précision quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra et ils peuvent interpréter ces versets de l'Apocalypse d'une manière tout à fait étonnante. Quand les Écritures enseignent que, pendant la bataille d'Armageddon, le sang coulera et montera jusqu'aux morts des chevaux, on s'attend presque à ce qu'ils nous disent de quel type de sang il s'agit. Cette abondance de détails me laisse songeur pour deux raisons. Premièrement, quand Jésus lui-même répond aux questions des disciples sur ce sujet, il se montre plutôt évasif. Comme on peut le voir dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 7 et 8, « Alors, les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 36, Jésus semble affirmer que lui-même ne connaît pas tous les détails. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je vois difficilement comment certains auteurs contemporains pourraient en savoir plus long que Jésus sur les derniers temps. Deuxièmement, est-il vraiment utile de connaître tous les détails? Car si l'Église est enlevée avant le début de la grande tribulation, ce genre de renseignement n'est pas très utile pour notre édification ou pour toute autre raison. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, Jésus enseigne, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Remarquez bien l'indicatif présent des verbes. Celui qui écoute ma parole a la vie éternelle et ne vient point en jugement. En d'autres mots, à partir du moment où le croyant reçoit personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, le jugement de Dieu ne vient plus sur lui. Or, la grande tribulation n'est rien d'autre qu'un jugement de Dieu. Et c'est pourquoi l'Église y échappera. Et comme nous l'avons déjà vu, Dieu a promis à l'Église de Philadelphie qu'il allait la délivrer de cette heure. Quelle heure? De cette heure dont parle l'apôtre Jean dans notre passage. Laissons donc le message de la parole de Dieu nous encourager. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Nous encourager par sa parole. La condition, c'est d'être à l'écoute et d'avoir un cœur qui se penche et se tourne vers cette pensée de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse, chapitre 7, les versets 2 à 4. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Que d'enseignements, mes amis. il m'est difficile d'apporter une application personnelle sur juste un des sujets passionnants qui viennent de nous être enseignés. Je crois que je vais simplement vous exprimer à quel point je suis encouragée par cet enseignement, tout comme je suis certaine que la majorité d'entre vous l'est aussi. Quand on a la certitude d'être sauvé, d'avoir reçu le don gratuit de la vie éternelle, on ne peut qu'être encouragé quand on entend un tel message de la part de Dieu, de sa parole de vérité. N'est-ce pas, mes amis? Par exemple, le fait d'entendre que la grande tribulation viendra après le départ de l'Église est vraiment réjouissant quand on sait qu'on fait partie de cette Église dont Jésus est la pierre angulaire, le chef, la tête, le sauveur, le Seigneur, le Rédempteur. À la fin du message, Régent nous a mentionné qu'à partir du moment où le croyant reçoit personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le jugement de Dieu ne vient plus sur lui. Et la grande tribulation n'est rien d'autre qu'un jugement de Dieu, et c'est pourquoi l'Église y échappera. Voilà ce que le Seigneur nous a enseigné, entre autres, par la bouche de Régent aujourd'hui. Alors, mes amis, vous qui êtes des croyants, je ne sais pas si vous vous sentez comme moi, mais personnellement, je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur de m'avoir fait ce cadeau de la vie éternelle. Surtout quand je constate à quel point j'étais loin de le mériter. Mais Dieu m'a fait grâce. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, verset 19b, le Seigneur dit ceci, « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Je ne peux pas vous expliquer pourquoi moi, mais je peux vous dire qu'il m'a fait grâce et je n'ai eu rien à faire. J'ai simplement cru en Jésus. J'ai simplement cru qu'il était le sauveur promis que Dieu a envoyé sur cette terre pour payer la dette de mon péché. J'ai placé ma confiance en lui seul pour être pardonné. J'ai dit, « Seigneur, sauve-moi. » Et il l'a fait. Alors, mon ami, en ce moment même, si tu reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse, tu peux recevoir ce même cadeau de la part de Dieu. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Il a aussi dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, mon ami, demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver. Et n'essaie surtout pas de gagner ton ciel par tes propres moyens ou par une religion quelconque. Non, mon ami, il faut que tu te repentes, que tu changes de direction à l'égard du péché. Et pendant que Jésus frappe à la porte de ton cœur, ouvre cette porte et laisse-le entrer. Tu vas l'ouvrir en confessant le nom de Jésus, en lui demandant de te sauver, de te donner la vie éternelle. Demande-lui maintenant, dis, « Seigneur, sauve-moi, je suis incapable de me sauver moi-même. Couvre-moi du sang de l'agneau. Lave-moi dans ton sang, Seigneur Jésus. »
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours « Parole par poste ».
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Ah,
pour en faire
compliqué.
La correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel
www.radioespoir.ca. Adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.